Pauline Pucciano, Titania 4.0. Chapitre 9. Quai de la Mégisserie. Bernard Régenville marchait le long de la Seine, où des péniches à énergie solaire avançaient avec difficulté. L'eau avait jadis été verte, à ce qu'on racontait, mais le fleuve charriait maintenant depuis de longues années une encre plus noire que le pétrole. Régenville fixa le cours opaque de l'eau, qui semblait avoir perdu sa fluidité. Les péniches avançaient lentement, parce qu'elles rencontraient cette résistance accrue. Le cours de la Seine était ralenti, morbide, et prenait sous les ponts anciens des airs de Styx. Que dissimulait cette surface miroitante où tremblotaient les reflets des monuments? Des larcins compromettants, des victimes jetées nuitamment, des suicidés pensifs. Mais tout le monde préférait l'ignorer. Choses et gens s'engloutissaient dans les ténèbres liquides, dans un clapotement immonde, et rien ne refaisait jamais surface. Avec un soupir satisfait, Bernard Régenville aperçut de loin sa destination. Les commerces d'animaux, qui, à touche-touche, rivalisaient d'inventivité et de charme pour appâter les clients. Il se demanda depuis combien de temps il n'était pas venu ici, et conclut qu'il avait dû accompagner Irina et Daphné 10 ou 12 ans auparavant. Irina voulait des plumes authentiques pour l'un de ses costumes excentriques qu'elle faisait porter à Daphné. Daphné, quant à elle, voulait voir les animaux, et il avait fallu supporter les chamailleries de la mère et de la fille pendant des heures. Il était amusant que ce fût Daphné, à nouveau, qui l'amena ici. La traque jusqu'alors n'était pas concluante. Ces trois oiseaux vivaient sur la branche, et ils étaient toujours envolés lorsque Régenville se rapprochait d'eux. L'analyse des vidéos, les tentatives de pistage informatique, la recherche systématique sur les lieux qu'ils avaient fréquentés n'avait rien donné. Irina Morgovic, cependant, ne plaisantait pas. Elle lui avait parlé avec ce ton de commandement glacial qui vous faisait comprendre qu'un échec ou un refus vous serait infiniment plus préjudiciable qu'à elle. Régenville adorait qu'elle lui parlât ainsi. Il en éprouvait à chaque fois un ineffable frisson d'excitation. La peur de lui déplaire aiguillonnait son désir, et il devenait un instrument tendu, une arme docile et mortelle dans les mains de sa patronne. Les raisons des requêtes d'Irina, il les connaissait bien sûr. Elle avait reçu des pressions des actionnaires, la cotation en bourse de Morgan Corp baissait dangereusement depuis que ce collectif ridicule faisait circuler des rumeurs. Mais la véritable raison de son obéissance ne se trouvait pas dans une communauté d'intérêts. Elle se trouvait dans sa dévotion à elle, à sa personne. Il était sa chose, son esclave, son âme damnée. Il arrivait rarement qu'elle lui demandât de faire usage de violence physique, mais lorsque c'était le cas, quelque chose se libérait en lui. Elle avait ce pouvoir de réveiller en lui à la fois l'agneau soumis et la bête. C'était à force d'observer les vidéos et de lire les rapports de Charles Blandion, du docteur Fabre et de l'officier Dubreuil, que son attention avait été attirée par les mues de serpents. Ce n'étaient pas des objets courants, et le collectif en avait déjà utilisé un certain nombre. Une rapide analyse biologique confirma qu'il s'agissait d'une matière organique et non artificielle. Il fit une recherche sur le réseau qui confirma qu'il était possible de se faire livrer une mue de serpent, mais pas sans laisser de traces. Il était fort probable que les enfants, car c'est ainsi qu'il les considérait, aient préféré acheter ces articles directement au magasin. Et il n'y avait à Paris qu'une seule adresse pour ce genre d'achat, le quai de la Mégisserie. Avec dans son RV une quantité de photos de Jean Corville, de Daphné Titania et du troisième larron dont ils ignoraient le nom, il pénétra dans la première boutique. Des décors holographiques simulaient, au fond de chaque cage magnétique, la savane, la forêt tropicale ou le désert. Les animaux étaient confinés par le champ électromagnétique, mais on pouvait les admirer sans l'obstacle visuel des barreaux. Dans la cage savane, où régnait une atmosphère surchauffée, une girafe, un zèbre et un rhinocéros, tous miniaturisés à la taille d'un chat, paraissaient écrasés d'ennui et dégageaient une odeur forte. Dans celle d'à côté, des grenouilles énormes, des perroquets et un petit singe s'agitaient dans l'air humide. Liberton, je dois vous informer que nous avons également une remarquable collection d'animaux artificiels de l'autre côté.
Ceux-là ne sont pas artificiels ? Demanda Régenville.
Le marchand, dont le visage était tatoué, désigna son nez d'un air fin. Vous reconnaissez les vrais à l'odeur. Les animaux artificiels ont été conçus pour éviter les nuisances. Pas d'odeur corporelle, pas de venin, un organe vocal diminué, pas de griffes.
« Ce zèbre de 40 cm n'est pas artificiel, » répéta Régenville, buté. « Évidemment, il n'est pas conçu de manière entièrement naturelle, il est génétiquement modifié, mais il s'agit d'un organisme vivant, entièrement original, avec un comportement imprévisible, sujet à la maladie et à la mort. » Régenville risqua un regard de l'autre côté. « Et qu'est-ce qui se vend le mieux ?»« Oh, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. L'un de nos produits phares est sans conteste la chimère que vous voyez là-bas. Le sphinx aussi se vend bien. » Parmi les animaux artificiels, à côté de perroquets bavards, de singes acrobates et de licornes aux crinières colorées, adaptées à la hauteur d'un enfant, se trouvaient les monstres. La chimère, de la taille d'un chien moyen, était vraiment fascinante. La tête de lion, auréolée d'une crinière épaisse, se tournait de temps à autre avec un petit rugissement. Le rose humide, veiné de noir de l'intérieur de sa gueule, était particulièrement saisissant. Au niveau de la naissance des pattes avant, une paire d'ailes d'aigle, aux plumes fines et colorées, se déployait à intervalles réguliers, tandis que la queue aux écailles émeraudes s'enroulait et se déroulait comme un serpent constricteur. C'était une merveille de cybernétique. Régenville eut une soudaine envie de l'offrir à sa maîtresse. « Combien la chimère ?»« 12 000 crédits. » 12 000 crédits. C'était le prix qu'on offrait aux clients de Morgan Corp pour leur prélever un organe. Cet objet incroyablement beau et inutile valait-il le prix d'un organe humain? Que signifiait cette équivalence? Régenville chassa cette question importune et remit l'achat à plus tard. « Est-ce que vous vendez des serpents ?»« Non, vous trouverez ça chez mon collègue, 2 boutiques plus loin. Il a le plus grand terrarium. » Régenville le remercia et quitta le magasin pour pénétrer dans celui qu'on venait de lui indiquer. Il y avait moins de monde dans cette boutique qui était étroite et profonde. Sur les deux côtés, les terrariums étaient fermés magnétiquement de sorte que les reptiles paraissaient, au premier coup d'œil, en liberté. Régenville s'attarda un instant sur des tortues de terre dont les carapaces avaient été serties de pierreries et de fils d'or. Les iguanes et les caméléons, en tête de gondole, arboraient des couleurs chatoyantes et changeantes. Le caméléon artificiel était accompagné d'un texte publicitaire. Ce caméléon dernier cri, idéal pour une compagnie discrète, s'adapte à son environnement en moins d'une demi-seconde. Ses yeux sont aussi des caméras multidirectionnelles qui peuvent émettre 24 heures sur 24 vers votre RV, le rendant indispensable pour surveiller votre appartement. L'essayer, c'est l'adopter. Une jeune femme juchée sur des talons très hauts le manipulait tranquillement. Le caméléon, roulant ses yeux étranges, prit la couleur de sa main, puis celle de son manteau, et enfin, lorsqu'elle le fit poser en l'air devant le ciel, à l'entrée de la boutique, imita le gris-perle incertain du ciel parisien. Alors que la jeune femme s'extasiait bruyamment, Régenville s'adressa au vendeur. « Vous vendez des serpents organiques ?»« Oui, tous ceux du fond, là-bas. »« Est-ce que vous conservez leur mue ?» Le vendeur, un petit homme d'un certain âge, qui paraissait peu enclin à la transformation personnelle, parut surpris. Il hésita. « C'est étrange que vous me demandiez ça. Je n'aurais jamais cru qu'il y aurait un jour un tel engouement pour les mues. »« On vous a déjà posé cette question récemment ?»«
Oui. »
Régenville sortit son RV et fit défiler les photos. « Vous reconnaissez l'un de ces libertons ?» Le petit vieux jeta un œil inquiet sur les portraits. « Je veux pas d'histoire, moi. »« Vous n'en aurez pas. Je vous propose un simple deal. La prochaine fois que quelqu'un vous demande une mue de serpent, vous m'alertez, immédiatement. » Et je vous créditerai de 12 000 crédits. » Le petit vieux ouvrit de grands yeux. « Et comment je vous alerte ?»« Je vais vous laisser mes coordonnées. Vous les entrez dans votre RV et vous m'envoyez une notification dès qu'ils se pointent dans votre magasin. L'air de rien. Puis vous les retenez pendant, disons, 15 minutes. Je vous poke et c'est tout. Oui. Gardez-vous une trace de vos transactions ? Il est impossible de ne pas en garder. Vous pourriez remonter au dernier achat, me donner... un numéro d'identité informatique, peut-être ? Ça devrait pouvoir se faire, dit le vieil homme sans allumer son RV. Moyennant finance, bien entendu. Si vous pouviez être plus précis, Liberton... Régenville regarda rapidement autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. Il tomba sur un présentoir de petits serpents artificiels de diverses couleurs qui s'enroulaient gracieusement autour d'un bras de femme cybernétique. Vos serpents bracelets, là, vous les vendez combien ? 300 crédits. « Eh bien, je vais vous en acheter un, et je vais vous l'acheter 3 000. » Le petit vieux parut réfléchir une seconde, puis il se précipita vers le présentoir. « Lequel vous ferait plaisir, Liberton ? Réjeanville songea aux vêtements crème d'Irina Morgovic, à ses ongles nacrés, à ses lèvres rouges. Il opta pour un serpent très fin, d'une trentaine de centimètres, de couleur fauve, avec des rayures noires. « Celui-ci. Très bon choix, Liberton. Très élégant. Vous désirez un paquet cadeau ?»«
Oui, s'il vous plaît. »
Le vieil homme prit le serpent qui se déroula docilement et pénétra sans opposer de résistance dans un étui métallique au reflet cuivré. « Les bijoux vivants sont très simples d'utilisation et nécessitent peu d'entretien. La notice est à l'intérieur. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à revenir me voir. »«
Je n'hésiterai pas, » dit Réjeanville, en plantant des yeux inflexibles dans ceux hésitants du vieil homme.
Ils scellèrent la transaction, puis Réjeanville attendit tandis que le marchand recherchait l'information demandée dans son Hervé.
« J'ai votre renseignement, » dit-il. « Je vous l'envoie ? Sur les coordonnées de votre II ?
Je vous en prie. »
Réjeanville reçut presque immédiatement sur son Hervé un numéro d'identité informatique assorti d'un avatar. Un ridicule homme-renard, d'un goût plus que douteux.
« À quelle fréquence viennent-ils vous voir ?»«
C'est très irrégulier, mais ils m'ont passé une importante commande il y a quelques jours. »«
Ah oui ?»«
Oui, ils en voulaient 7. Mais je ne les avais pas. Les serpents ne muent pas sur commande, malheureusement. Ils doivent repasser. »«
Quand cela ?»
« Je ne sais pas exactement. Bientôt. Avant le 13, en tout cas. »«
Que se passe-t-il le 13 ?»«
Je n'en sais rien, Liberton. Je ne fais que leur livrer des mues de serpents. Je ne leur demande pas à quoi elles servent. »
Réjeanville hocha la tête. On était le 4, et il allait falloir mettre quelqu'un en planque à proximité immédiate pendant les 9 prochains jours. En sortant, il bouscula involontairement la jeune femme à haut talon qui s'approchait, la mine béate, pour acheter son caméléon.
« Bernard !» « J'étais sûre que vous trouveriez quelque chose, » murmura distraitement Irina, en laissant le petit serpent s'enrouler autour de son poignet.
Réjeanville savait qu'il n'obtiendrait pas d'autres remerciements, ni pour le serpent, ni pour l'information. Elle se contentait de laisser l'animal ramper sur sa peau et s'y fixer. Elle se contentait de lui apparaître en déshabillé vaporeux qui laissait par transparence apercevoir sa nudité. Elle se contentait de l'appeler Bernard. Et cette récompense était largement suffisante.
« Il va donc se passer quelque chose le 13, » continua-t-elle. « Une action de grande ampleur impliquant plusieurs victimes, probablement 7.
Avez-vous une idée de l'identité de ces victimes ?»«
On peut supposer qu'il s'agit de Charles, de Fabre, de cette policière demeurée et sûrement de moi. Il y en a peut-être une pour vous aussi, Bernard. Vous avez trempé dans l'affaire du Panacor dont il s'occupe.
Il en manque 2. »
« Quelqu'un de chez Hillness, j'imagine ?»« Comment peuvent-ils espérer monter une action impliquant tous ces gens en même temps ? Ils ne sont que 3. »«
Et nous sommes sur nos gardes. »«
C'est un mystère, je dois l'avouer, mais nous leur ferons rendre gorge. Nous sommes beaucoup plus puissants qu'eux. »
Réjeanville, fasciné, regardait l'avant-bras d'Irina. « Vous me faites penser à Cléopâtre, » dit-il.
« Tss !» fit-elle, agacée. « Reprenez-vous, Réjeanville, vous avez du pain sur la planche. Ce n'est pas le moment de devenir sentimental. »
Réjeanville se redressa immédiatement. « Je vais organiser la planque et commencer des recherches approfondies sur les activités de l'homme-renard et de son identité informatique, » dit-il d'un ton très professionnel. Irina lui passa la main sur le visage, le flattant comme un chien. Puis, prime sautière, elle se tourna vers son vaste miroir en pied.
« Je me demande si le 7e ne serait pas Locard, » dit-elle comme pour elle-même.
« Locard ? Pourquoi cela ? Il s'est toujours montré plutôt du côté de votre fille. »
Mais il a fait presque autant d'argent que moi sur ce contrat spécial, et elle n'est pas assez sotte pour ne pas l'avoir compris. »
Réjeanville n'avait pas l'habitude de contredire sa patronne, il garda donc le silence. Son regard s'attarda un peu trop longtemps sur Irina, qui lui tournait le dos, mais son reflet dans le miroir le trahit.
« Arrêtez de me regarder ainsi, maître, c'est fatigant et pathétique. Vous pouvez disposer. »
Réjeanville s'inclina et quitta la pièce sans discuter. Avec une sombre excitation, il songeait au moment où on allait retrouver ces 3 gamins. Irina lui demanderait probablement d'aller jusqu'au bout, comme pour le juge Malfini. Il se remémora le jour où il s'était rendu de sa part auprès du docteur Fabre, le jour où Titania devait mourir. Irina aurait pu user de son crédit pour la sauver, mais elle n'avait pas failli, sa main n'avait pas tremblé. Elle avait laissé sa fille aux mains de Morgan Corp, tirant un simple trait sur elle. Un trait propre et net. Quand on avait franchi ce cap, on ne pouvait pas revenir en arrière. Et il savait confusément que lorsque sa filature donnerait des résultats, et c'était une question de jours, ce serait à lui que reviendrait le funèbre honneur de liquider les 3 gamins.
Il tuerait les garçons d'abord, rapidement. Puis il prendrait son temps pour la petite. Il fallait toujours garder le meilleur pour la fin.